Frangouli enis testis mosmenis davaleba.
Vous allez voir apparaître des questions sur votre écran. Répondez aux questions en écoutant l'enregistrement. Si vous n'entendez pas bien l'enregistrement, veuillez lever la main.
Exercice 1. Vous allez écouter une interview avec une actrice française, Carole Bouquet. Indiquez la bonne réponse A, B ou C pour chaque question de 1 à 12. Vous avez maintenant 45 secondes pour lire les questions. Vous entendrez l'enregistrement deux fois. Bonjour Carole, hier vous étiez à Rome. Ce matin vous vous êtes réveillée à Paris et ce soir vous dormirez à Nice. Vous êtes une femme pressée, toujours en mouvement.
Ces temps-ci, j'ai l'impression d'être dans une légère bousculade. Je finis une série pour Apple et j'en débute une autre pour Amazon. Et puis, je pars en tournée avec la pièce Bérénice. J'ai à peine quelques jours pour aller voir Daria, l'aînée de mes petits-enfants. Je vais en profiter pour lui demander de m'aider à me familiariser avec les réseaux sociaux. Elle les manie mieux que moi. En plus, j'ai beaucoup de mal à suivre l'évolution rapide de toutes ces nouvelles plateformes. Daria me promet de me l'expliquer, mais je suis déjà un peu perdue.
Vous répondez à nos questions un mercredi, la journée des enfants. Que vous rappelle ce jour ?
Longtemps, il était totalement consacré à mes fils. J'organisais mes tournages en fonction de leurs vacances. Jusqu'à leurs 20 ans à tous les deux, d'ailleurs. Aujourd'hui, les calendriers scolaires, je n'ai plus ça en tête. Je ne suis plus dans le circuit.
Vous partez en tournée avec Bérénice, un personnage que vous avez interprété à plusieurs reprises. Elle vous ressemble ?
Je ne suis pas aussi héroïque qu'elle. Elle se sacrifie, renonce à l'amour. Je pense que les femmes sont plus douées pour le renoncement que les hommes, peut-être à cause de l'éducation reçue depuis des siècles et de la maternité. Dès que vous mettez un enfant au monde, vous dites adieu à une partie de votre vie. L'enfant va passer en premier. Il y a ce sentiment de devoir constant, de responsabilité absolue, qui modifie la perception de soi et du monde.
Comment vous évadez-vous quand vous travaillez beaucoup ?
En tournée, je mène une vie d'ascète. Après la représentation, je ne peux plus me permettre d'aller dîner dans un restaurant, je n'ai plus l'âge. C'est fini tout ça. Je rentre sagement à mon hôtel, je dîne dans mon lit et je m'endors. Parfois, je songe à ces soirées passées à flâner, à rencontrer des gens. Mais aujourd'hui, la fatigue me rattrape rapidement.
Vous avez acheté en 2000 une maisonnette à Pantelleria qui s'est transformée en une vaste demeure de famille.
Ce n'est pas ce que je voulais au départ, mais ça l'est devenu. J'ai plein d'amis qui viennent me voir et, surtout, les amis de mes enfants que j'ai emmenés en vacances ici quand ils étaient tout petits. Ils continuent à venir ou ils louent des maisons à côté et ils viennent dîner chez nous tous les soirs. C'est une joyeuse effervescence, un peu comme une grande famille étendue. Les enfants d'hier sont devenus des adultes, mais il y a toujours cette complicité, cette chaleur partagée.
Vous incarnez l'élégance à la française. Quelle est votre définition du luxe ?
Avoir la possibilité de faire ce que l'on aime. Pendant la journée, je m'habille toujours de la même manière, je porte des vêtements d'homme, chemise blanche, pantalon noir et un manteau. Pour le soir, je choisis des habits simples avec des bijoux baroques.
Pensez-vous que la beauté soit éternelle ?
Ah non, mais j'ai une tante qui a 83 ans et qui est extraordinairement belle. Espérons que j'ai le gène de cette famille.
Comment êtes-vous devenue comédienne ?
Ce n'était pas une vocation d'enfance. J'ai 17 ans, je me retrouve un soir dans un dîner à côté d'un certain Serge Moati, qui me demande ce que je veux faire plus tard. Je lui réponds que je veux devenir actrice, alors que je ne me l'étais pas dit la veille. Au moment où je l'ai dit, c'est devenu mon désir. Il était sans doute là, invisible. Mais il n'était pas encore monté jusqu'à mon cerveau. En prononçant ces mots, quelque chose a changé en moi. C'était comme une révélation soudaine, Un appel intérieur.
Vos premiers pas au théâtre datent de 1992. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Ma vie a changé en 1977. Luis Buñuel m'a engagé pour jouer dans cet obscur objet du désir. J'étais en deuxième année au conservatoire. À partir de ce moment-là, le cinéma a pris toute la place. Mais, aujourd'hui, on me propose moins de beaux rôles. Et comme je n'ai pas envie de passer derrière la caméra, je trouve mon bonheur au théâtre.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier rôle, décroché pour cet obscur objet du désir de Luis Buñuel ?
J'étais encore dans l'apprentissage de mon métier. J'avais peur, je n'étais pas sûre de moi, mais je savais que je travaillais avec l'un des plus grands maîtres du cinéma.
Comment s'est produite votre rencontre avec André Téchiné ?
Je le connaissais avant par un ami commun. Il m'avait dit qu'il aimerait bien travailler avec moi, c'était il y a une dizaine d'années, et l'occasion ne s'était pas présentée. Je ne l'ai jamais appelé pour lui dire « Alors, on en est où de notre projet de travailler ensemble ?» Et finalement ça s'est fait. Tardivement. L'année dernière, pendant les 3 mois du tournage, j'ai été la femme la plus heureuse du monde.
Comment définir sa façon de travailler ?
Il tourne rapidement les scènes difficiles et très lentement les scènes qui semblent faciles. Il cherche constamment, n'hésitant pas à nous dire que telle prise est ennuyeuse.
Quel souvenir gardez-vous de la pub Chanel ?
Cela m'a apporté 15 ans de liberté totale qui m'ont permis de tourner dans les films que j'avais envie de faire à l'époque.
Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans des combats citoyens ?
C'est tout à fait naturel pour moi. L'engagement touche une corde sensible et me fait du bien. Aujourd'hui, je suis moins sur le terrain.
En revanche, vous êtes davantage sur le terrain viticole.
Mon amour du vin remonte à l'âge de 20 ans. Mais le passage à l'acte est venu beaucoup plus tard. Faire du vin, ce n'est pas mon métier. Mais j'ai une passion pour cette terre. Le 5 janvier 2023, j'ai fait partie des 12 lauréats des Grands Prix du vin, remis chaque année par la revue, qui récompense des personnalités œuvrant à faire rayonner la culture du vin en France. C'est mieux qu'un Oscar.
Bonjour Carole, hier vous étiez à Rome. Ce matin vous vous êtes réveillée à Paris, et ce soir vous dormirez à Nice. Vous êtes une femme pressée, toujours en mouvement.
Ces temps-ci, j'ai l'impression d'être dans une légère bousculade. Je finis une série pour Apple, et j'en débute une autre pour Amazon. Et puis, je pars en tournée avec la pièce Bérénice. J'ai à peine quelques jours pour aller voir Daria, l'aînée de mes petits-enfants. Je vais en profiter pour lui demander de m'aider à me familiariser avec les réseaux sociaux. Elle les manie mieux que moi. En plus, j'ai beaucoup de mal à suivre l'évolution rapide de toutes ces nouvelles plateformes. Daria me promet de me l'expliquer, mais je suis déjà un peu perdue.
Vous répondez à nos questions un mercredi, la journée des enfants. Que vous rappelle ce jour ?
Longtemps, il était totalement consacré à mes fils. J'organisais mes tournages en fonction de leurs vacances. Jusqu'à leurs 20 ans à tous les deux, d'ailleurs. Aujourd'hui, les calendriers scolaires, je n'ai plus ça en tête. Je ne suis plus dans le circuit.
Vous partez en tournée avec Bérénice, un personnage que vous avez interprété à plusieurs reprises. Elle vous ressemble ?
Je ne suis pas aussi héroïque qu'elle. Elle se sacrifie et renonce à l'amour. Je pense que les femmes sont plus douées pour le renoncement que les hommes, peut-être à cause de l'éducation reçue depuis des siècles et de la maternité. Dès que vous mettez un enfant au monde, vous dites adieu à une partie de votre vie. L'enfant va passer en premier. Il y a ce sentiment de devoir constant, de responsabilité absolue, qui modifie la perception de soi et du monde.
Comment vous évadez-vous quand vous travaillez beaucoup ?
En tournée, je mène une vie d'ascète. Après la représentation, je ne peux plus me permettre d'aller dîner dans un restaurant, je n'ai plus l'âge. C'est fini tout ça. Je rentre sagement à mon hôtel, je dîne dans mon lit et je m'endors. Parfois, je songe à ces soirées passées à flâner, à rencontrer des gens. Mais aujourd'hui, la fatigue me rattrape rapidement.
Vous avez acheté en 2000 une maisonnette à Pantelleria qui s'est transformée en une vaste demeure de famille.
Ce n'est pas ce que je voulais au départ, mais ça l'est devenu. J'ai plein d'amis qui viennent me voir et, surtout, les amis de mes enfants que j'ai emmenés en vacances ici quand ils étaient tout petits. Ils continuent à venir ou ils louent des maisons à côté et ils viennent dîner chez nous tous les soirs. C'est une joyeuse effervescence. un peu comme une grande famille étendue. Les enfants d'hier sont devenus des adultes, mais il y a toujours cette complicité, cette chaleur partagée.
Vous incarnez l'élégance à la française. Quelle est votre définition du luxe ?
Avoir la possibilité de faire ce que l'on aime. Pendant la journée, je m'habille toujours de la même manière, je porte des vêtements d'homme, chemise blanche, pantalon noir et un manteau. Pour le soir, je choisis des habits simples avec des bijoux baroques.
Pensez-vous que la beauté soit éternelle ?
Ah non, mais j'ai une tante qui a 83 ans et qui est extraordinairement belle. Espérons que j'ai le gène de cette famille.
Comment êtes-vous devenue comédienne ?
Ce n'était pas une vocation d'enfance. J'ai 17 ans, je me retrouve un soir dans un dîner à côté d'un certain Serge Moati, qui me demande ce que je veux faire plus tard. Je lui réponds que je veux devenir actrice, alors que je ne me l'étais pas dit la veille. Au moment où je l'ai dit, c'est devenu mon désir. Il était sans doute là, invisible, mais il n'était pas encore monté jusqu'à mon cerveau. En prononçant ces mots, quelque chose a changé en moi. C'était comme une révélation soudaine, un appel intérieur.
Vos premiers pas au théâtre datent de 1992. Pourquoi avoir attendu si longtemps ?
Ma vie a changé en 1977. Louise Buñuel m'a engagée pour jouer dans cet obscur objet du désir. J'étais en deuxième année au conservatoire. À partir de ce moment-là, le cinéma a pris toute la place. Mais, aujourd'hui, on me propose moins de beaux rôles. Et comme je n'ai pas envie de passer derrière la caméra, je trouve mon bonheur au théâtre.
Quel souvenir gardez-vous de votre premier rôle, décroché pour cet obscur objet du désir de Louise Buñuel ?
J'étais encore dans l'apprentissage de mon métier. J'avais peur, je n'étais pas sûre de moi, mais je savais que je travaillais avec l'un des plus grands maîtres du cinéma.
Comment s'est produite votre rencontre avec André Téchiné ?
Je le connaissais avant par un ami commun. Il m'avait dit qu'il aimerait bien travailler avec moi, c'était il y a une dizaine d'années, et l'occasion ne s'était pas présentée. Je ne l'ai jamais appelé pour lui dire « Alors, on en est où de notre projet de travailler ensemble ?» Et finalement, ça s'est fait. Tardivement. L'année dernière, pendant les 3 mois du tournage, j'ai été la femme la plus heureuse du monde.
Comment définir sa façon de travailler ?
Il tourne rapidement les scènes difficiles et très lentement les scènes qui semblent faciles. Il cherche constamment, n'hésitant pas à nous dire que telle prise est ennuyeuse.
Quel souvenir gardez-vous de la pub Chanel ?
Cela m'a apporté 15 ans de liberté totale qui m'ont permis de tourner dans les films que j'avais envie de faire à l'époque.
Pourquoi vous êtes-vous impliqué dans des combats citoyens ?
C'est tout à fait naturel pour moi. L'engagement touche une corde sensible et me fait du bien. Aujourd'hui, je suis moins sur le terrain.
En revanche, vous êtes davantage sur le terrain viticole.
Mon amour du vin remonte à l'âge de 20 ans. Mais le passage à l'acte est venu beaucoup plus tard. Faire du vin, ce n'est pas mon métier. Mais j'ai une passion pour cette terre. Le 5 janvier 2023, j'ai fait partie des 12 lauréats des Grands Prix du vin, remis chaque année par la revue, qui récompense des personnalités œuvrant à faire rayonner la culture du vin en France. C'est mieux qu'un Oscar.
Exercice 2. Vous allez écouter le témoignage de 4 personnes concernant les réseaux sociaux, notamment le Facebook, et son influence sur la vie quotidienne. Associez les 4 témoignages aux affirmations correspondantes. Attention, il y a 2 affirmations de trop. Vous écouterez l'enregistrement 2 fois. Vous avez maintenant 30 secondes pour lire les affirmations. Première personne.
Les réseaux sociaux font partie de ma vie quotidienne. Dès que je me réveille, j'allume mon téléphone, j'ouvre le Facebook et je fais défiler de différents posts de mes amis. Ça me permet d'être au courant de leur vie, de leur opinion sur tel ou tel sujet d'actualité. Je leur mets le signe « j'aime », parfois je réagis avec mes commentaires, mais je ne m'engage jamais dans les discussions. Je préfère plutôt observer que discuter. Bien que je ne m'exprime pratiquement jamais et je poste très rarement mes photos sur Facebook, Il est très important pour moi. Je pense que je ne pourrai plus m'en passer.
Deuxième personne.
Je ne fais pas beaucoup d'attention aux réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook, mais je ne m'en sers pas souvent. Je trouve pratique Facebook pendant les fêtes. Au Nouvel An, ou à Noël, par exemple, quand je ne peux pas téléphoner à tout le monde, j'écris un petit mot avec mes meilleurs vœux à tous mes amis Facebook. Je reçois aussi leurs réactions, et ça me fait plaisir. Le Facebook me permet aussi de garder le contact avec les gens que j'ai connus dans mon enfance, ma jeunesse, ou pendant ma vie professionnelle. Comme ça, pour trouver quelqu'un, je n'ai qu'à consulter la liste de mes amis.
Troisième personne.
Je me suis inscrite au Facebook pratiquement dès son apparition en 2006. Avec ce réseau, j'ai vu la possibilité de la réaction collective contre plusieurs décisions du gouvernement. C'est une vraie plateforme de solidarité. On s'en sert également pour discuter et débattre des sujets d'actualité qui touchent notre société. Je signe et diffuse souvent des pétitions contre la politique de la pollution de l'environnement et pour la protection des animaux. Ce sont des sujets auxquels je tiens beaucoup. À part mon engagement social, je poste aussi parfois mes photos. Surtout les photos des voyages.
Quatrième personne. Je suis tout à fait contre ce fléau de l'humanité qui porte le nom du réseau social. Il n'y a rien de social là-dedans. Ce n'est qu'un piège mis par les grandes entreprises internationales, pour nous faire acheter encore plus de produits en nous séduisant par les publicités qui sont omniprésentes. Et puis le Facebook est un excellent moyen pour contrôler les gens. Tout le monde est suivi par les services secrets, surtout dans les pays non démocratiques où les gens sont emprisonnés à cause de leurs opinions. Pour moi, le Facebook ou n'importe quel autre réseau social est une véritable peste de la société. Première personne.
Les réseaux sociaux font partie de ma vie quotidienne. Dès que je me réveille, j'allume mon téléphone, j'ouvre le Facebook et je fais défiler de différents posts de mes amis. Ça me permet d'être au courant de leur vie, de leur opinion sur tel ou tel sujet d'actualité. Je leur mets le signe « j'aime », parfois je réagis avec mes commentaires, mais je ne m'engage jamais dans les discussions. Je préfère plutôt observer que discuter. Bien que je ne m'exprime pratiquement jamais et je poste très rarement mes photos sur Facebook, il est très important pour moi. Je pense que je ne pourrai plus m'en passer.
Deuxième personne.
Je ne fais pas beaucoup d'attention aux réseaux sociaux. J'ai ma page Facebook, mais je ne m'en sers pas souvent. Je trouve pratique Facebook pendant les fêtes. Au Nouvel An, ou à Noël, par exemple, quand je ne peux pas téléphoner à tout le monde, j'écris un petit mot avec mes meilleurs vœux à tous mes amis Facebook. Je reçois aussi leurs réactions, et ça me fait plaisir. Le Facebook me permet aussi de garder le contact avec les gens que j'ai connus dans mon enfance, ma jeunesse ou pendant ma vie professionnelle. Comme ça, pour trouver quelqu'un, je n'ai qu'à consulter la liste de mes amis.
Troisième personne.
Je me suis inscrite au Facebook pratiquement dès son apparition en 2006. Avec ce réseau, j'ai vu la possibilité de la réaction collective contre plusieurs décisions du gouvernement. C'est une vraie plateforme de solidarité. On s'en sert également pour discuter et débattre des sujets d'actualité qui touchent notre société. Je signe et diffuse souvent des pétitions contre la politique de la pollution de l'environnement et pour la protection des animaux. Ce sont des sujets auxquels je tiens beaucoup. À part mon engagement social, je poste aussi parfois mes photos. Surtout les photos des voyages.
Quatrième personne. Je suis tout à fait contre ce fléau de l'humanité qui porte le nom du réseau social. Il n'y a rien de social là-dedans. Ce n'est qu'un piège mis par les grandes entreprises internationales, pour nous faire acheter encore plus de produits en nous séduisant par les publicités qui sont omniprésentes. Et puis le Facebook est un excellent moyen pour contrôler les gens. Tout le monde est suivi par les services secrets, surtout dans les pays non démocratiques où les gens sont emprisonnés à cause de leurs opinions. Pour moi, le Facebook ou n'importe quel autre réseau social est une véritable peste de la société.
fin de l'exercice de compréhension orale. Merci.
Mosmenis davaleba dasrulebulia.